Et voici quelqu'un qui n'est pas un robot, c'est Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Ils sont descendus dans la rue par milliers, les partisans de Juan Guaido, reconnu comme président par intérim du Venezuela par les États-Unis. Ils veulent accentuer la pression contre le président socialiste Nicolas Maduro. Tension, violence, la presse étrangère et notamment dans le collimateur des autorités, l'Union européenne accentue elle aussi sa pression.
Et pourquoi l'Europe et la France notamment ne soutiennent pas autant l'opposition au Cameroun? La diaspora camerounaise pose la question après l'arrestation de Maurice Kanto, arrivé second de la présidentielle d'octobre. Dernier.
À la une en France, la question du retour des djihadistes français de Syrie, le grand débat auquel s'est invité le Premier ministre Édouard Philippe hier soir sur France Inter, et puis les négociations pour l'assurance chômage qui ne reprendront pas comme prévu aujourd'hui. Le patronat a décidé de suspendre sa participation aux négociations.
Et puis dans une dizaine de minutes, la question du jour, toujours sur ce thème du retour des djihadistes français. Catherine, pourquoi la France change-t-elle de stratégie? Nous poserons la question à Abdelhassem El Difraoui, qui est politologue et spécialiste du monde arabe.
Guaido, président, Maduro, usurpateur. C'est en criant ces slogans, en tapant sur des casseroles ou en faisant sonner des cornes de brume que des dizaines de milliers de Vénézuéliens ont manifesté hier dans les rues de Caracas et d'autres villes du pays à l'appel de l'opposition au président Nicolas Maduro. Une semaine après s'être proclamé président par intérim et fort du soutien de plusieurs pays, dont les États-Unis, Juan Guaido a invité ses partisans à investir les rues hier de midi à 14h pour exiger notamment l'entrée d'aide humanitaire dans le Venezuela. Le reportage à Caracas de notre correspondant Benjamin Delisle.
Il est midi pile sur la place Altamira, au lieu de la contestation vénézuélienne. Les manifestants sont encore peu nombreux. Comme Maria et Eugenia, ils inscrivent des messages sur des feuilles blanches.
C'est écrit « Maduro dehors ».
C'est là l'unique souhait de cette mère de famille qui rit jaune lorsqu'on évoque l'appel au dialogue du président vénézuélien le jour même.
Nous ne croyons plus au dialogue avec Maduro. On a déjà essayé, mais c'est une farce.
Les opposants sont de plus en plus nombreux sur la place. Ils se font entendre à coups de klaxons, de sifflets ou de vuvuzela. Herminia brandit un carton qui demande l'entrée des 20 millions de dollars d'aide humanitaire que Juan Guaido dit avoir réuni à l'étranger.
Le gouvernement ne le permet pas. C'est déjà arrivé que des médicaments et de la nourriture soient envoyés. Mais à la frontière, ils n'ont pas laissé passer les containers.
L'heure tourne et des marches issues d'autres points de mobilisation convergent vers la place. Un immense drapeau vénézuélien porté par les manifestants bloque l'avenue Francisco de Miranda. Janet est plus motivée que jamais.
Jamais nous n'arrêterons de marcher, jamais nous n'arrêterons de lutter pour notre pays. Quelle que soit la durée, on fera ce qu'il faut.
L'hymne vénézuélien vient mettre un terme à la manifestation. Tous se dispersent en se faisant de grands signes. Le prochain rendez-vous est déjà fixé pour samedi prochain.
Benjamin Delisle à Caracas pour France Culture. Le Venezuela en crise. Les manifestations ont fait au moins 40 morts depuis la semaine dernière selon les Nations Unies. 850 personnes ont été arrêtées, dont des journalistes. Deux reporters français de l'émission Quotidien de la chaîne TMC ont été interpellés alors qu'ils filmaient le palais présidentiel mardi soir. Depuis, le contact a été perdu avec eux, alerte le principal syndicat de journalistes au Venezuela. Deux de leurs confrères chiliens ont eux été expulsés du pays. Dans la crise au Venezuela encore, six pays européens dont la France ont donné un ultimatum au socialiste Nicolas Maduro. Il a jusqu'à dimanche pour convoquer des élections, faute de quoi ces pays européens reconnaîtront l'opposant Juan Guaido comme président. Hier, Nicolas Maduro a dit envisager des élections législatives anticipées, mais pas question d'organiser de présidentielles avant 2025. Mais pourquoi l'Europe et la France notamment n'affichent pas autant de fermeté face au Cameroun de Paul Biya? C'est la question que posent les opposants à l'inamovible et autoritaire président camerounais après l'arrestation de Maurice Kamto, arrivé second de la présidentielle d'octobre dernier. La diaspora camerounaise notamment demande des comptes aux chancelleries européennes, Claude Guibal.
Il avait appelé samedi à la colère dans tout le Cameroun, demandant à la population de manifester contre la réélection de Paul Biya. Des milliers de participants, plus d'une centaine d'arrestations et à Paris et Bruxelles, des ambassades prises d'assaut par une diaspora en colère déchirant les portraits du président camerounais. Paul Biya, 85 ans, dont 36 au pouvoir. Avec l'arrestation de Maurice Kamto lundi soir, le régime camerounais vient de franchir un cap inédit dans la répression de l'opposition. À 65 ans, cet ancien ministre ministre avait créé la surprise pendant la campagne présidentielle en drainant d'énormes foules lors de ses meetings, des foules cimentées par l'impopularité de Paul Biya. Au lendemain du scrutin, avant même les résultats confirmés par la commission électorale et sans concertation avec le reste de l'opposition, Maurice Kamto s'était déclaré vainqueur. Et depuis, la contestation et la colère ne cessent de monter parmi les Camerounais. La majorité d'entre eux n'a pas connu d'autre président que Paul Biya, à qui il reproche non seulement d'avoir confisqué le pouvoir et les richesses au profit de son clan, mais aussi bien sûr la déréliction du pays. La colère des Camerounais touche aussi la France, que l'opposition trouve bien silencieuse après cette élection au résultat improbable. 74% des voix pour Paul Biya, une élection entachée d'irrégularités. Paris est accusé de privilégier la stabilité au Cameroun, une stabilité que Paul Biya pourtant semble de moins en moins en mesure d'assurer, alors que le Cameroun connaît deux crises sécuritaires majeures, avec la contagion de Boko Haram dans le nord du pays et la violente guérilla qui oppose les forces loyalistes aux séparatistes du Cameroun anglophone.
La douche froide pour Theresa May, la première ministre britannique, espérait, avec le soutien du Parlement mardi soir à Londres, pouvoir rouvrir des négociations avec Bruxelles sur le Brexit et la frontière irlandaise. Mais elle a été étrillée hier par Michel Barnier, le négociateur européen pour le Brexit. Pas question, dit-il, de rediscuter un accord que Theresa May a elle-même négocié. Le Brexit et la question de la frontière entre les deux Irlandes, c'est le reportage de la rédaction à suivre à 7h24 sur France Culture.
Et vous écoutez, effectivement, France Culture et les matins avec la suite du journal de Catherine Dutu. Édouard Philippe s'est dit favorable au rapatriement des djihadistes français susceptibles d'être relâchés par les forces kurdes en Syrie.
Mieux vaut qu'ils soient rapatriés et jugés en France plutôt que de se disperser dans la nature pour fomenter d'autres actions. C'est ce qu'a déclaré hier le Premier ministre invité de l'émission Le Téléphone Sonne sur France Inter. Un changement de doctrine et de discours pour la France qui plaidait jusqu'à présent pour le jugement des djihadistes français en Irak. Ou en Syrie, on y revient d'ailleurs juste après ce journal. 150 Français, dont une cinquantaine d'adultes, seraient actuellement détenus en Syrie par l'Alliance arabo-kurde, alliée de la coalition internationale contre le groupe État islamique. Toujours hier soir, sur France Inter, le Premier ministre Édouard Philippe s'est prêté à l'exercice du grand débat en répondant aux questions des auditeurs du Téléphone Sonne. Un exercice qui a duré un peu plus d'une heure et demie, où Édouard Philippe a plutôt justifié les mesures déjà mises en œuvre par son gouvernement, Stéphane Robert.
Face aux propositions qui lui ont été soumises, le Premier ministre est la plupart du temps resté évasif. Faut-il élargir l'impôt sur le revenu à l'ensemble des Français ?
Vous savez, pour l'instant, on écoute.
Peut-on envisager d'instaurer une TVA à 0% sur les produits de première nécessité ?
J'ai pas d'avis sur le sujet, ou plus exactement, je trouve que ce serait curieux de le donner avant le débat.
Il s'est quand même permis de donner son avis sur le référendum d'initiative citoyenne, le RIC ou le RIS. Le RIS, ça me hérisse, avait-il dit il y a quelques jours, et ça le hérisse. Toujours.
Ce que je crois compliqué dans le RIC, c'est qu'il me semble être un instrument qui permet de revenir de façon systématique sur des décisions qui sont prises dans le cadre de la démocratie représentative.
Parce qu'on ne va pas s'amuser à défaire ce qui a été fait quelques mois auparavant, a encore expliqué le Premier ministre. Ce sont d'ailleurs des questions qui lui ont été posées à plusieurs reprises. Faut-il revenir sur la hausse de la CSG ? Revenir sur la suppression de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune ? Il n'a bien sûr pas tranché par un non définitif. Mais il a expliqué, encore une fois, le pourquoi de ces mesures.
Cet impôt de solidarité sur la fortune, qui était un symbole populaire, bien sûr qu'il avait des avantages, mais il avait plus d'inconvénients au sens où les gens fortunés partaient de France. Et en partant de France,
mais ce
qu'est-ce
chiffre,
qu'on
pardon,
constatait
Philippe...
non, je vais aller au bout, c'est vachement important. C'était pas simplement le paiement de l'impôt sur la fortune qu'ils arrêtaient, c'était le paiement de tous les autres impôts. Autrement dit, on constatait que ce symbole de l'ISF conduisait à une diminution de la ressource fiscale globale.
On a entendu hier soir avec Édouard Philippe toute la difficulté de l'exercice qui sera de faire comprendre aux Français que l'exécutif peut accepter un certain nombre de propositions et d'orientations sans toutefois qu'elles entrent en contradiction avec le projet présidentiel sur lequel a été élu Emmanuel Macron.
Et dans le grand débat national côté comité de suivi, cette fois la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts ont décidé de bouder l'exercice dont la première réunion avait lieu hier à Matignon. Pas question de participer à ce qu'ils estiment être une fausse consultation. Ces deux partis refusent de cautionner une opération entièrement orchestrée par Emmanuel Macron. On y revient dans le journal de 7h30. Dans le cadre de la loi dite anti-casseurs, le gouvernement a obtenu hier à l'Assemblée le rétablissement partiel de l'article l'article 1er qui autorise la mise en place de fouilles sur les lieux d'une manifestation et à ses abords immédiats sur réquisition du procureur. Au procès des deux policiers du 36 quai des Orfèvres accusés d'avoir violé une touriste canadienne, les accusés auront une dernière fois la parole avant que la cour ne se retire pour délibérer et rendre son verdict. Hier, l'avocat général a réclamé une peine de 7 ans d'emprisonnement à leur encontre, Florence Turme.
3 heures de réquisitoire, 5 heures de plaidoirie à la mesure de l'enjeu de cette dernière journée d'audience. Mon intime conviction, a conclu l'avocat général, est qu'Emily Spanton a bien été victime de 2 hommes qui ont déshonoré leur unité en agissant comme des soudards. Pour Philippe Courroy, sa dénonciation a été immédiate et constante, même si parfois imprécise. Emily Spanton est certainement victime d'une chose que l'on ne connaît pas, une victime de la vie peut-être, rétorque Sébastien Chapira pour la défense, mais ce dossier est le fruit d'un mensonge, d'une manipulation. Tour à tour, les avocats vont s'attacher à démontrer les incohérences du récit de la plaignante, version inconsistante des expertises médicales qui ne font état, disent-ils, ni de plaies, ni de traces de coups, ni de violence. Une somme d'incertitudes n'a jamais fait une certitude, résume Anne-Laure Compoint. On m'a toujours dit que le plus difficile à défendre, c'était l'innocent, poursuit l'avocate, parce qu'un innocent, ça se défend mal, avec sa bonne foi, et lui a toujours crié qu'il n'avait pas fait ce que dénonce Madame Spanton. Elle marque une pause, un silence, puis reprend face au juré. À l'heure de prendre votre décision, il vous restera ces questions auxquelles la défense vous demande de répondre non. Ça ne signifie pas « je vous crois », ça signifie « je ne sais pas », autrement dit le doute qui, selon la loi, doit profiter à l'accusé.
Les négociations sur l'assurance chômage ne reprendront pas aujourd'hui comme prévu. Le patronat a suspendu sa participation, n'acceptant pas l'insistance d'Emmanuel Macron à vouloir créer un système de bonus-malus pour taxer les contrats courts. Ce n'est pas la bonne solution, estime Jean-Eudes Duménil-Dubuisson, secrétaire général de la CPME.
Oui, il y a des difficultés liées à précarité. Oui, il y a des salariés qui se retrouvent dans des situations très difficiles, qui enchaînent les contrats courts. Entre nous, ça vaut d'ailleurs très largement dans le secteur public, hein, qui est le premier pourvoyeur de contrats courts. Mais plutôt que de dire « on a un problème, on crée une taxe », nous, notre logique, c'était de dire « regardons quels problèmes sont créés par la précarité et regardons point par point quelles solutions on y apporte ». Je vais vous prendre 2 exemples. Quand vous êtes en contrat court, donc en contrat durée déterminée, vous avez des difficultés pour accéder au logement. Et ben, regardons ce point-là, comment faire en sorte d'améliorer l'accès au logement pour les personnes qui sont en contrat court. Quand vous êtes en contrat court, vous avez des difficultés pour accéder au crédit. Et bien là aussi, traitons ce problème.
Solution pragmatique, estime la CPME. Discours hypocrite, répond Denis Gravouille. Le négociateur pour la CGT propose d'adapter ce système de bonus-malus sur les contrats courts.
La vérité, c'est que le patronat, le MEDEF en tête, est totalement accro aux contrats courts et à la précarité et ne veut aucune mesure pour la remettre en cause. C'est bien ça la question. Mais je prends le cas d'un chantier, un très gros chantier détenu par une très grosse boîte du BTP. Elle va le découper par lot et va faire appel à des petites entreprises à qui elle va dire « vous faites telle tranche pendant 6 mois ou pendant 1 an et vous vous débrouillez avec des contrats courts ou de l'intérim ». Dans ce cas-là, comme ça existe pour les actions du travail dans le cadre de l'intérim, on peut partager la cotisation, la surcotisation qu'on propose, le malus, entre le donneur d'ordre, qui est le vrai responsable de l'utilisation de la précarité, et son sous-traitant.
Denis Gravouille, négociateur pour la CGT, pour discuter donc de l'assurance chômage, il répondait à Annabelle Grelier. Le temps de ce jeudi 31 janvier, marqué par la pluie qui arrive par l'ouest de l'Hexagone, vigilance orange pour avalanche toujours en cours dans les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, vigilance orange pour neige et verglas dans l'Aveyron. Les températures sont comprises ce matin entre moins 3 et 0 degrés dans le nord et l'est de la France, ainsi que dans le Massif central et en Rhône-Alpes. Partout ailleurs, il fait entre 1 et 8 degrés de l'intérieur des terres vers les côtes.